Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Plus. Ce mois-ci, nous allons parler des Open Badge. Les Open Badge, qu'est-ce que c'est ?
Les Open Badge, ou badge ouvert en français, ce sont des badges numériques qui valorisent la reconnaissance des expériences non formelles. Le principe est simple, ce sont des images hébergées sur un site web qui contiennent des données attestant de compétences reconnues par d'autres.
Par exemple, pour avoir le badge gestion d'un planning, vous devez être reconnu capable de faire un certain nombre de choses. Vous devez avoir les coordonnées de votre équipe, connaître les disponibilités de chacun, répartir les tâches, organiser les transports, etc.
Une fois que vous savez mettre en place ces éléments, vous pouvez obtenir le badge gestion d'un planning qui sera stocké dans un portefeuille numérique. Et si votre planning est en ligne, vous pouvez même mettre le lien dans votre badge.
Plus concret encore, Nicolas, est-ce que tu sais faire des gaufres ?
Oui, bien sûr.
Tu connais donc la recette, mais tu sais aussi quelles sont les proportions des ingrédients. Tu as le matériel adapté et tu connais le temps de cuisson. Tu peux donc obtenir le badge « Faire des gaufres ».
Ces badges n'ont pas pour objectif de remplacer les diplômes, mais de mettre en valeur des compétences qui ne sont pas reconnues par ces diplômes. Les Open Badges reposent alors sur la notion de confiance.
La confiance, disait Georges Simmel, est une hypothèse sur la conduite future de l'autre.
En effet, l'Open Badge ne fonctionnerait pas sans cette notion de confiance entre l'émetteur et le récepteur de ce badge à propos de la véracité des compétences qu'il représente.
Tout au long de cette émission, nous allons revenir sur l'histoire, le fonctionnement et les spécificités des Open Badges.
Pour répondre à nos questions, nous accueillons Leslie Martin, chargée de mission pour la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais. Bonjour Leslie.
Bonjour.
Merci d'être là.
Chaque jeudi matin, à partir de 9h, Radio Plus vous propose des magazines et reportages. Vous faites partie d'une association ? Venez partager vos activités. N'hésitez pas à nous contacter au 09 52 22 22 07 ou sur contact@radioplus.fr.
Dans la première partie de cette émission, nous allons parler de l'EPIC Conférence 2018, International ePortfolio and Identity Conference, qui s'est déroulée du 24 au 26 octobre dernier au Centre de Recherche Interdisciplinaire de Paris. Nicolas, tu as pu y assister. En quoi consiste cette conférence ?
Alors l'EPIC Conférence, c'est une conférence européenne qui était centrée cette année sur les Open Badges, mais plus globalement sur la reconnaissance ouverte. À cette occasion, j'ai pu interviewer Mathieu Muselet, référent Open Badge pour la Ligue de l'enseignement et délégué numérique pour la Fédération de l'Indre-et-Loire.
On écoute ça tout de suite.
Nous sommes au Centre de Recherche Interdisciplinaire de Paris où se déroule l'EPIC Conférence 2018. Cette année, la conférence a pour sujet la réalisation des Open Badges. Pouvez-vous nous expliquer dans quelle démarche s'inscrit cet événement ? En clair, en quoi consiste cette conférence ?
La conférence est une conférence internationale qui rassemble tous les acteurs du monde entier qui s'intéressent à la reconnaissance ouverte. La reconnaissance ouverte, c'est un principe, j'allais dire, à la fois utopique et à la fois très concret. Utopique parce que on estime que dans ce monde, nous sommes noyés par un certain nombre de référentiels, de blocages qui nous empêchent de reconnaître vraiment qui on est, ce qu'on peut apporter à la société et globalement à l'espèce humaine. Et de façon concrète, ça passe par des technologies, des petites technologies dites de rupture, comme les Open Badges, les Bit of Trust, dont on va parler peut-être pendant cet entretien.
Justement, en parlant des Open Badges, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle en est l'origine ?
Oui, alors elle est fixée, elle est datée de fin 2010, où la fondation Mozilla, donc inscrite dans l'univers du logiciel libre, crée cet Open Badge, donc en français badge numérique ouvert, c'est-à-dire un code source qui est libre. Et un Open Badge est en fait une image qui renferme des métadonnées. Les métadonnées, ce sont des mots, des phrases et des preuves de quelque chose. En l'occurrence, à l'époque, Mozilla était vraiment dans la perspective d'un mouvement mondialisé qui irait un petit peu contre les Facebook et Google naissants qui commençaient à manger nos données et à en faire leur propriété.
Qui sont les différents acteurs qui ont permis à ce projet d'être importé en France ?
Alors, on parle bien des Open Badges.
On parle bien des Open Badges.
D'accord. Donc, avec la fondation Mozilla, il y a eu la fondation MacArthur, qui est une fondation qui travaille aussi sur des technologies à bénéfice de l'espèce humaine. Et un Français qui anime la conférence aujourd'hui, Serge Ravet, s'est intéressé à ces Open Badges parce qu'il travaillait depuis des années sur les e-portfolios, c'est-à-dire les portfolios de compétences, mais sur Internet. Et l'Open Badge était la suite logique des portfolios, c'est-à-dire qu'on pouvait isoler des expériences et des compétences et les rendre visibles sur le net pour qu'elles soient entendues, reconnues par d'autres, et en particulier des employeurs, mais pas seulement.
Et quelle est la méthodologie qui permet la mise en place des open badges?
Alors, l'open badge, c'est quelque chose de très très simple. Il faut 20 minutes pour faire un open badge. On se met sur une plateforme, il en existe des gratuites. Nous, on utilise Open Badge Factory. Et après avoir choisi une image qui représente le badge, ça peut être un badge de compétence, par exemple, de coopération. Je sais coopérer dans un projet. On appuie simplement sur un petit bouton et là on va pouvoir rédiger la situation de l'expérience. Par exemple, au cours de cet entretien là, si vous aviez à me décerner un badge de bonne interviewée, eh bien vous décririez cette situation. Nous sommes dans les sous-sols du CRI, il est 14h, nous faisons ceci, nous faisons cela. Et ensuite, à travers un petit protocole, on appelle ça nous un petit protocole de récit de l'expérience, vous me diriez, ben Mathieu, vous avez été clair, vous avez bien articulé, ou le contraire, vous ne me donneriez pas ce badge. Une fois que ce protocole est fait, vous appuyez sur un bouton et le badge est disponible pour moi. Et je peux l'emporter sur des réseaux sociaux type LinkedIn, sur un blog, c'est-à-dire je peux inscrire une image où quand la personne va visiter mon blog, elle va avoir à cliquer dessus si elle est curieuse de savoir si je suis un bon interviewé.
Et justement, si je vous décernais donc ce badge de bonne interviewé, quel système serait mis en place pour permettre de vérifier la véracité de ce badge?
Alors, c'est tout le sujet du badge. Le badge, il est né dans l'espace non formel ou informel. C'est-à-dire que nous ne sommes pas à l'école. L'école ou le système de certification, en particulier en France, valide et revalide les compétences par un système de jury. C'est ce qu'on appelle le principe de certification. L'open badge, il est né du déclaratif. Vous avez vu l'exemple que j'ai donné, c'est vous qui me le donnez. Vous, a priori, vous n'êtes pas directeur d'une école de journalisme. Par contre, qu'est-ce qui vous empêche de me délivrer ce badge? Je suis avec vous dans cette situation-là, vous portez un avis sur ma compétence, on peut émettre le badge. Donc, ce badge, a priori, n'a pas de valeur au départ, si ce n'est dans une relation entre nous deux, sur cette qualité d'interviewé. Si je voulais qu'il en ait, moi, pour me servir de ce badge, eh bien, ça serait intéressant que d'autres organisations l'endossent ou l'acceptent. Par exemple, Radio France, on verra ce badge à Radio France, qui dirait, ah ben oui, oui, moi, je reconnais ce badge parce que j'ai écouté en podcast ce petit interview. Effectivement, il y a des petites compétences qui sont pas mauvaises. Ou alors, elle refuserait. Je dirais, ben non, ça vaut pas triplette cette affaire-là, je le refuse. Et donc le badge prend de la valeur à partir du moment où d'autres gens appuient sur le bouton, et ça s'appelle un bouton d'endossement, et ils disent « je reconnais ce qui s'est fait, je reconnais ce qui s'est fait ». Et nous pouvons avoir 10, 15 endossements. La valeur du badge s'acquiert en fonction du nombre de structures qui reconnaissent qu'il a de la valeur.
Qu'est-ce que ce badge peut changer à la vie universitaire ou professionnelle en France?
Alors ça, c'est capital. Bon, bien sûr, il n'y a pas que les étudiants et les salariés qui sont destinataires de ce badge. Nous, on travaille beaucoup sur d'autres publics. Et puis vous, dans le Pas-de-Calais, entre autres avec la coopérative des savoirs de Saint-Paul-sur-Ternoise, vous travaillez sur d'autres publics. Mais par exemple, moi, je mène une expérimentation avec l'Université de Tours sur l'engagement étudiant. L'engagement étudiant est devenu obligatoire depuis la loi Égalité Citoyenneté de 2017. Et les étudiants peuvent s'engager dans la vie associative ou même dans un emploi. Et à un moment donné, il faut reconnaître qu'ils ont eu cette expérience et donc des savoirs issus de cette expérience. Et par un petit système de validation de badge, eh bien, on leur donne des crédits au CTS, c'est-à-dire des points qui vont compter pour leur diplôme. Donc une expérience concrète, c'est une expérience d'engagement, un badge égale des points. Ça, c'est le badge utilisé dans le système formel.
Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'à terme, l'open badge puisse remplacer le curriculum classique?
Alors, c'est vraiment l'une des grandes ambitions que nous avons, en particulier pour des jeunes qui n'ont pas de diplôme et de certification. Vous savez que c'est assez ridicule d'arriver à un forum d'emploi des jeunes avec un CV où on vous demande de raconter des expériences. Et la seule expérience, au sens français du terme, que vous racontez, c'est que vous avez gardé votre grand-mère, des lapins ou un petit. Bon, c'est quasiment ridicule et c'est quasiment humiliant pour les jeunes. Alors qu'ils ont d'autres expériences qui peuvent être des expériences de bénévolat, sportifs, culturels, amicaux, de voyage, dont on peut tirer des expériences. Donc là, nous sommes sur des expérimentations où effectivement, nous avons envie des forums d'été, des forums de job d'été, ne soit pas construit à partir de CV, mais uniquement à partir de badges. Un jeune pourrait venir avec deux badges, racontant deux histoires sur lesquelles il peut avoir un dialogue avec un employeur qui va dire « Ah, ça, ça m'intéresse. Tu as vécu une situation difficile en voyage, tu t'es débrouillé. Ah, c'est des gens comme ça que je cherche. » Savoir si on a gardé le petit, si on est, si on aime les enfants, etc. C'est stupide sur un CV aujourd'hui à 17 ans, 18 ans, ça n'a aucun sens. Donc le badge peut être une alternative. Quant à dire que le CV disparaîtra, je pense qu'il faut peut-être pas exagérer. On reste en France, on a besoin de documents très concrets, très statiques. Bon, notre ambition, nous, est de fournir des alternatives et des compléments, pas forcément de remplacer les choses.
Et justement, est-ce qu'il existe des endroits où l'open badge est déjà totalement accepté, où il s'est totalement démocratisé, ou est-ce que c'est encore une pratique relativement confidentielle ?
Alors, c'est une pratique, à l'échelle du monde, on peut dire que c'est confidentiel. Je crois qu'il y a 8 millions de personnes badgées aujourd'hui, ce qui n'est pas beaucoup. Mais on lie au badge la notion de territoire apprenant. C'est-à-dire que pour que le badge ait de la valeur, vous voyez bien, j'ai donné l'exemple d'un jeune, l'intérêt, c'est qu'il rencontre un employeur pas très loin de chez lui. Une fois qu'il sort de cet emploi, il peut se faire valoir de cet emploi, par exemple à l'université, dans le dispositif que je disais précédemment, pour reconnaître cette expérience. Donc, si on crée ce qu'on appelle un territoire apprenant, un département, une métropole, une région, et qu'on met en place le système de badge en tracteur pour que ce badge soit reconnu, ça a de la valeur. Et c'est ce qu'a fait la ville de Chicago. La ville de Chicago est une ville 100% badgée, où vous allez sur un site dédié au badge et vous voyez, Jerry vient de sortir d'un emploi, il a acquis telle compétence de façon informelle, il est disponible. Donc c'est une cartographie très dynamique des compétences et aussi des valeurs des gens. Donc le badge a de l'avenir, mais bon, plus largement, c'est pas tellement la technologie du badge qui a de l'avenir, c'est l'écoute de la société pour des compétences qui sont issues de l'informel et du non-formel. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque un petit peu, le besoin fort auquel répond le badge.
Bah, merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems, some people out of love. Lord, heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I made mistakes. I'm only human. That's all it takes to put the pain on me. Don't put the blame on me. I know profit over size.
only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Rag & Bone Man, à l'instant sur Radio Plus avec Human. Il est 9h17, vous êtes toujours à l'écoute de La Ligue et vous avec la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais. Aujourd'hui, on parle des Open Badge.
Leslie Martin, vous êtes chargée de mission pour la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais. Merci de venir répondre à nos questions. La première, ce sera celle-ci. Quelles sont les avancées de la Ligue de l'enseignement 62 du Pas-de-Calais pour les Open Badge?
Alors, bonjour. La Ligue de l'enseignement et les Open Badge, c'est une histoire qui a commencé maintenant il y a environ 2 ans, autour d'un projet européen. Un projet européen qui consistait à échanger des pratiques entre organisations européennes sur des pédagogies actives, donc des pédagogies participatives. Et c'est à cette occasion-là, dans le cadre de ce projet européen, qu'on a découvert les Open Badge. Et on a trouvé ça, on a trouvé la démarche vraiment super. Donc, on a voulu aller un peu plus loin. Et là, on est en train de construire la suite de ce projet européen, où l'idée, ce serait là de constituer ce qu'on appelle des territoires apprenants, donc des territoires dans lesquels les structures qui les composent constituent un réseau d'utilisation des open badge, un réseau de reconnaissance. Et donc là, il y a environ 2 semaines, le 24 octobre, on a officialisé la démarche Badgeons le Pas-de-Calais. Voilà, donc dans le cadre de la conférence dont vous parliez tout à l'heure, la conférence internationale EPIC sur les Open Badges, on a officialisé ça, le fait de badger le Pas-de-Calais, donc de diffuser l'outil badge sur le département.
Et comment la Ligue de l'enseignement souhaite construire ces territoires apprenants?
Alors déjà, en allant voir les structures du département, en informant sur la démarche, qu'est-ce qu'un open badge, en quoi ça peut être utile pour eux, et leur montrer aussi qu'il peut y avoir des zones grises un peu, des compétences qui ne sont pas valorisées dans le cadre dans leur structure. Donc voilà, ça passe par l'information d'abord, et puis ensuite par la création de liens entre ces structures-là et la constitution vraiment d'un réseau. Alors il s'agit pas d'aller voir 150 structures, mais déjà voilà, de consolider un groupe de travail de 4-5 structures, identifier ces structures-là et consolider un groupe de travail sur les open badges.
Et au-delà de ces structures associatives et universitaires, pour la plupart, le sujet est encore assez peu connu. Comment envisagez-vous de rendre ce projet accessible à tous?
Alors, les open badges sont beaucoup plus connus que ce qu'on pourrait penser. On est surpris quand on va voir les structures. Le sujet est connu, mais il est connu dans le fond, mais voilà, pas un peu moins sur la forme. Les structures sont intéressées, l'intérêt est là, mais on ne sait pas forcément comment faire, comment s'y prendre. Comment le rendre accessible à tous? Ça passe beaucoup par outiller les structures et apporter des moyens techniques.
Merci beaucoup Leslie. On vous retrouve tout à l'heure pour la suite de cette interview. En attendant, Nicolas a rencontré Émilie Lionel et Isabelle Grand, qui ont toutes les deux contribué à la mise en place des Open Badges à l'Université de Caen. Et lors de la conférence EPIC, elles ont animé un atelier, créer son propre badge. On écoute leur interview par Nicolas.
Bonjour Émilie Lionel et Isabelle Grand. Vous avez animé ce matin un atelier nommé Create Your Own Badge à l'EPIC Conférence 2018. Pourriez-vous expliquer l'objectif de cet atelier?
Donc là, on est sur la conférence EPIC qui parle de reconnaissance ouverte via les open badge, qui est une des technologies qu'on peut utiliser pour la reconnaissance ouverte. Donc l'idée, c'était d'ouvrir la conférence par un atelier découverte, puisque tout le monde n'est pas familier avec cette technologie, et donc de présenter la technologie open badge, le champ des possibles, mais surtout les faire travailler aussi, réfléchir à des badges de compétences. Alors on était sur des badges de communauté. Donc il y a eu plusieurs badges là. Alors là, il y a eu une effervescence ce matin, parce qu'il y avait beaucoup de groupes en multiculturel. Donc il y a eu plein de badges qui ont été imaginés. Donc on les a fait travailler sur un canevas, le canevas de Serge Ravet, qui permet de réfléchir quel est le bénéficiaire du badge, quelle sera la valeur du badge pour lui, quels sont les endosseurs qu'on peut imaginer, et puis qu'est-ce que le badge reconnaît. Donc réfléchir à tous ces éléments avant de partir sur la création technique de badge.
Et vous auriez des exemples de badges qui ont été imaginés autour de ça?
Ben là, du coup, je vais laisser la parole à Isabelle, puisqu'elle en a créé un en groupe. Bien
sûr. Alors, ce matin, nous avons imaginé un badge ambassadeur des Open Badge. Voilà, pour favoriser le développement de la communauté.
Quelles sont les principales questions à se poser avant de concevoir un Open Badge?
À quoi ça sert? Et puis, quel est l'intérêt aussi pour le bénéficiaire, que ce soit un étudiant, une organisation, un individu, qu'est-ce que ça va lui apporter d'obtenir ce badge? Donc il faut que ça ait de la valeur pour lui, mais de la valeur aussi pour les personnes qui vont consulter le badge, donc pour les employeurs potentiellement. Donc c'est pas faire du badge pour faire du badge, il faut que ce soit travaillé en collaboration avec les porteurs et puis tout l'écosystème autour des badges.
Toutes les parties prenantes, en fait. Il faut se poser la question de toutes les personnes qui peuvent être intéressées au processus. Donc sur Cannes, on a travaillé pas mal sur les soft skills.
Vous pouvez expliquer un petit peu les...
Quand on recherche un emploi, quand on regarde les offres d'emploi, dans les offres d'emploi, il y a des éléments qui correspondent au diplôme. Ça correspond plutôt au savoir, savoir-faire. Et tout ce qui est savoir-être, ça relève plutôt des compétences douces. Donc notre idée à Caen, c'était d'identifier les compétences douces et les reconnaître par des badges.
J'ai une autre question à propos de ça, c'est quelles sont les différentes étapes de la conception d'un badge?
Je peux parler en tant qu'enseignante, et Émilie parlera sur la dimension technique. Moi, pour moi, il faut déjà positionner pédagogiquement la place du badge dans notre relation à l'étudiant. À quel moment ça intervient, quel est son rôle, etc. À quand on est très clair, c'est un plus par rapport au diplôme. Mais on peut avoir un positionnement complètement différent, mais c'est le choix que nous avons fait. Et à ce moment-là, c'est des répercussions au niveau technique.
D'accord, donc c'est plus quelque chose de complémentaire au diplôme, oui. ça ne le remplace pas?
Non, parce que ce que je veux, c'est créer de la distinction. À diplôme identique, tout le monde n'a pas les badges. Donc ça crée la différence.
Pendant l'atelier, il y a été question de la durée de vie d'un badge. Ça veut dire qu'un badge peut devenir obsolète? Enfin, de quoi ça dépend?
Alors là, justement, c'est la question que toutes les organisations se posent. Quelle durée de vie on doit donner aussi à une compétence? Donc tout dépend du type de compétence. Si on parle de langue, effectivement, si la personne ne pratique pas la langue, la compétence peut se perdre. Donc il faut que ça doit s'entretenir, finalement, la compétence. Et le badge doit pouvoir être... alimenté, c'est-à-dire en termes de preuves, d'expérience, il va perdre un petit peu en valeur, quoi, dans le temps.
Ça veut dire que c'est possible de faire évoluer un badge?
Alors, nous, aujourd'hui, on va le réattribuer. La personne va devoir resoumettre des éléments pour pouvoir le réactiver. On est sur trois niveaux. On a un badge qui va évoluer donc sur le cycle universitaire, sur les compétences soft skills, sur trois niveaux. Donc, effectivement, l'étudiant va devoir resoumettre des éléments, participer à des actions pour obtenir le badge. Et donc, dans l'idéal, alors bon, là, aujourd'hui, techniquement, tout n'est pas encore développé. Bon, il y a beaucoup d'usages à imaginer, mais le fait que le badge puisse, moi, ce que je trouve intéressant, perdre un petit peu en opacité et qu'on puisse le réalimenter et réinjecter des éléments de preuve pour le réactiver et du coup, que le bénéficiaire ne le perde jamais, finalement. Qu'il n'y ait plus de question de durée de validité.
Mais donc, c'est encore une question à régler,
oui.
Ça.
Oui. Donc,
c'est une vraie question actuellement, en fait. Pour le moment, on a fait un choix sur 18 mois. Sauf pour mobilité internationale, on s'était dit là, il faut que la durée soit plus longue. Mais curiosité digitale, typiquement, on s'est dit c'est 18 mois. Communication aussi. l'esprit d'équipe aussi. Ce qu'on veut, c'est que finalement, l'étudiant qui rentre en L3, puisqu'on a un IAE, donc on fait rentrer les étudiants en L3, mais ils refassent la preuve en Master 1, ils refassent la preuve en Master 2. Donc on a prévu 3 niveaux de badge pour cet aspect-là.
D'accord. Si vous pouviez résumer en quelques mots les problématiques principales qui se dégagent de la mise en place des open badges, je veux dire sur le territoire, enfin dans les universités.
Alors, les universités, alors moi, ce que je vois, bon là aujourd'hui on badge principalement aujourd'hui, hein, bon ça c'est en train de changer, mais les étudiants IAE, taux de l'IAE, parce que c'est pas des grosses cohortes non plus d'étudiants, donc c'est gérable. La problématique, ça, elle va se poser sur des promos. Des L1 en langue, par exemple, où là, on va se retrouver avec 800 étudiants. Comment on va gérer le processus d'évaluation, d'attribution de badge? Donc là, on a des pistes hein, en se reposant sur les pairs. Donc les personnes qui ont déjà été badgées, qui pourraient évaluer ces demandes de badge. Mais c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose. On n'a pas encore implémenté sur des grosses cohortes.
Après, je pense que c'est beaucoup plus facile sur toutes les formations professionnalisantes, parce qu'on a la référence au marché. Sur des diplômes de première année, c'est plus difficile dans ce sens-là aussi, pour les identifier.
Merci d'avoir répondu à mes questions. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour les open badges?
La communauté se développe, mais là elle est en bonne voie hein, de développement. Enfin, sur la France, oui. Il y a quand même un intérêt très très vif de la part des. Enfin, nous, on parle de l'enseignement supérieur, mais même pour badger les territoires. Là, on voit bien que entre Badgeon la Normandie, Pays de la Loire, Pas-de-Calais, enfin ça bouge énormément au niveau du territoire.
Ouais.
Donc plein de beaux projets encore à venir.
Ça et des référentiels pour qu'on ait tous les mêmes grilles.
To look down at you. Things gonna be
À partir de 9h, Radio Plus vous propose des magazines et reportages. Vous faites partie d'une association? Venez partager vos activités. N'hésitez pas à nous contacter au 09 52 22 22 07 ou sur contact@radioplus.fr.
9h30 sur Radio Plus, c'était Jane à l'instant avec All Right. Et tout de suite, on repart dans notre matinée magazine avec la Ligue de l'enseignement. Pour la Ligue et vous, on parle aujourd'hui des Open Badges.
Leslie Martin, vous êtes toujours avec nous. On a parlé des cadres universitaires et professionnels déjà. Quels sont les autres domaines dans lesquels l'Open Badge peut avoir son importance ?
Et bah, tous les domaines en fait peuvent avoir leur importance, mais encore plus les domaines qui n'auraient pas déjà des systèmes de reconnaissance. Voilà, dans le milieu universitaire, on a le diplôme comme système de reconnaissance des compétences. Donc je dirais les domaines dans lesquels l'open badge peut avoir vraiment de l'importance, c'est voilà les domaines comme l'associatif, l'engagement. La formation non universitaire, même le domaine privé. Et puis voilà, on est vraiment dans un système où on a une reconnaissance entre pairs. On a une appropriation des compétences par les personnes et donc on n'est pas sur quelque chose de descendant avec une institution qui va reconnaître une compétence, mais voilà, vraiment une appropriation, une reconnaissance entre pairs. Donc ouais, tous les domaines peuvent avoir leur importance.
Donc vous avez parlé d'engagement, la Ligue de l'enseignement développe les services civiques et elle a d'ailleurs choisi d'introduire les open badges dans le cadre du service civique. La question qu'on se pose, c'est pourquoi ?
Alors déjà parce que, comme vous l'avez dit, la Ligue de l'enseignement est engagée dans le service civique depuis sa création en fait, donc c'est un dispositif qu'on maîtrise bien. Et l'intérêt de l'open badge là-dedans, c'est que bon, les services civiques, c'est une expérience non académique, un peu informelle. L'intérêt d'utiliser l'open badge dans ce cadre-là, c'est que le jeune va pouvoir mettre des mots sur l'expérience qu'il a acquise pendant son service civique. Et en plus, les services civiques est souvent un tremplin pour l'avenir, pour trouver un travail ensuite. Donc ça permet de valoriser les compétences qu'il a acquises pour sa recherche d'emploi après son volontariat en service civique.
L'open badge peut donc être un facteur déterminant dans l'évolution ou même la reconversion professionnelle.
Ah oui, tout à fait. Dans les cas d'une reconversion professionnelle ou d'une évolution professionnelle, on parle beaucoup de bilan de compétences, de validation des acquis. C'est des moments de vie où on se demande, où on fait un point sur ce qu'on sait faire, etc. Donc là, l'open badge, oui, peut être très utile pour valoriser des savoir-faire, mais aussi des savoir-être.
Eh bien, merci beaucoup, Leslie
merci
Martin.
À vous.
Chargé de mission pour la Ligue de l'enseignement, d'avoir répondu à nos questions. À bientôt.
À bientôt.
Le mardi 23 octobre, à Saint-Paul-sur-Ternoise, l'association Cadabra et la coopérative des savoirs ont organisé un atelier Open Badge à la Maison pour tous. Pauline, tu as pu y assister. Quel était l'objectif de cet atelier ?
Alors, l'objectif de cet atelier, c'était de réfléchir aux compétences à mettre en avant dans la création d'un Open Badge. Sous forme d'un atelier collectif, les participants ont déterminé les compétences nécessaires pour l'obtention de 5 Open Badges, parmi lesquels la décoration d'un stand, la conception d'un projet ou encore le fait d'être bénévole. J'ai interviewé Eva Ferreira Pinto, qui est bénévole à la coopérative des savoirs. On l'écoute tout de suite.
Bonjour Eva, pourquoi souhaitez-vous développer les Open Badges sur le Ternois ?
Parce que nous nous sommes rendus compte que des personnes se dévalorisaient et donc nous voulions mettre leurs compétences en avant.
Comment avez-vous introduit cette notion d'open badge ?
Il y avait déjà une idée de mettre les compétences en avant donc, au sein de l'association, mais on ne savait pas trop comment les développer. Donc nous avons des personnes de l'association, Jean-Paul Delbecq et Philippe Cavalier, qui sont partis une première fois en Angleterre, à Oxford, dans une association qu'ils développaient déjà. Et l'année suivante, ils sont partis en Suède, où ils développaient aussi les Open Badges. Donc de là, ils nous ont ramené ce qu'ils ont appris là-bas, et nous avons commencé à travailler sur le développement des Open Badges.
Donc vous avez commencé en mettant en place cet atelier ?
Oui, exactement. Nous sommes basés donc sur les ateliers qu'il y a à la coopérative des savoirs et sur les personnes pour développer les compétences.
Par exemple, les compétences qui ont été développées cet après-midi ont été choisies en fonction des personnes qui allaient participer et qui ont participé.
Oui, mais qui sont aussi au sein de l'association. Ils ne sont pas forcément présents lorsque nous faisons les Open Badges, mais c'est surtout au sein de l'association.
Et quand est-ce qu'a commencé cet atelier Open Badge ?
Alors, il a commencé il y a déjà plus d'un an, mais c'était plutôt oralement. Et ensuite, donc nous avons voulu le développer, nous avons fait les réunions, donc nous présentons sous forme de mind mapping et le temps de pouvoir avoir le support informatique pour les présenter, nous les présentons sur, en forme de toile d'araignée.
Et quel est l'aspect le plus important que vous aimeriez développer à travers cet atelier Open Badge ?
Valoriser les personnes, parce que nous avons des personnes qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont jamais travaillé, et pourtant elles savent faire beaucoup de choses. Donc c'est mettre ça en avant, valoriser les personnes, montrer qu'elles ont des compétences et pouvoir les remettre sur le marché de l'emploi.
Et cet atelier semble être une véritable réussite.
Totalement. Nous sommes en général entre 15 et 20 personnes tous les mardis. Donc nous développons plusieurs open badges, en général 3 à 4 par réunion.
Merci beaucoup Eva Ferreira-Pinto d'avoir répondu à nos questions.
Merci Pauline.
Hélène et Nancy ont également participé à cet atelier open badge. Elle raconte.
Moi, les open badges, j'aime beaucoup. Pendant ma mission de service civique, j'ai été à un moment chargée des open badges, notamment du niveau informatique pour la plateforme Badgeon Pas-de-Calais. Moi, j'aimais beaucoup. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est quelque chose qui me touche un peu parce que d'un point de vue personnel, j'ai pas un CV extraordinaire. Et savoir qu'il y a des choses comme ça qui se mettent en place, ça me touche beaucoup.
Conception d'un projet.
Cet atelier, ça fait plusieurs fois que je participe à plusieurs ateliers sur les open badges. Ça permet de nous connaître personnellement et ça permet aussi de développer de l'expérience, des connaissances qu'on pourrait valider sur notre CV. Parce que ça nous apporte des plus, ça nous fait travailler, ça nous remet en question, ça nous fait effectivement évoluer là-dessus. Elle nous fait aussi prendre conscience de notre personnalité et aussi ça nous apporte notre vision puisqu'on travaille en équipe. Donc on a plusieurs points de vue qu'on puisse partager et qu'après ça c'est aussi ce côté solidaire et que j'aime beaucoup personnellement.
Du coup vous pensez que les open badges sont quelque chose de positif ?
Oui. Ah oui, c'est formateur. Ça nous permet justement d'apporter des choses qu'on ne voit pas forcément, puisqu'on a une vision globale. Tandis que là, comme je vous dis, ça nous apporte au quotidien. On voit plusieurs visions. Puis au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'on a aussi des compétences. Ces compétences-là se développent effectivement sur les open badges. Et comme je vous dis, ça nous apporte beaucoup au point de vue personnel. Ça nous remet en question aussi. Et aussi sur nos futurs, avec la coopérative des savoirs. Effectivement, ils ont développé l'association LIA. Ils ont aussi développé Territoire en marche. Ils ont tous développé aussi notre association comme ci, comme ça. Moi, ça va me permettre de justifier, là, ça fait 14 ans que je n'ai pas travaillé, d'apporter ce plus.
Les open badges commencent donc à se répandre localement, comme c'est le cas ici à Saint-Paul-sur-Ternoise. Avec le projet Badgeon le Pas-de-Calais, on peut alors s'attendre à ce qu'il se démocratise sur tout le territoire. Aujourd'hui, ce sont en tout cas 5 badges qui ont été approuvés.
Tamponnier validé ? Tamponnier validé.
Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrange ma vie et l'enfer. Deviens comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Oh, fini, fini pour moi. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. Celui qui veut ma place. Mmh, 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine, force de l'amour. Et j'ai refusé mourir d'amour enchaîné. Mmh, Gabriel, tu flottes
vide dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Et tu chantes. C'est la voix d'une enfant avec laquelle tu classes mon sang. Et je veux t'expliquer, tu confonds le jour et la nuit. Oui, je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis.
Oh, sais-tu vraiment ce que tu veux faire?
Je ne serai plus l'esclave de ta chair. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour faire de l'amour. Et moi, la chance à celui qui veut ma place. Oui, ma place. Oui, 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour faire de l'amour. Oui, j'ai refusé.
Mourir d'amour enchaîné.
Oui, j'ai refusé.
Mourir d'amour enchaîné.
Oui, j'ai refusé.
Mourir d'amour enchaîné.
Radio Plus sur internet au www.radioplus.fr et par téléphone au 09 52 22 22 07. Radio Plus, la radio pas comme les autres.
9h42 sur Radio Plus, on termine cette émission de La Ligue et vous avec la Ligue de l'enseignement avec la dernière partie et la dernière interview.
Avant de terminer cette interview, cette émission, on vous donne rendez-vous à la soirée spectacle Émancipons les féminins qui se déroulera à Lens le 29 novembre prochain. Nicolas, de quoi s'agit-il ?
Il s'agit, comme tu l'as dit, d'une soirée spectacle organisée par le collectif du 25 novembre. J'ai d'ailleurs pu interviewer l'une des membres de ce collectif, Teresa Aymar, qu'on va écouter tout de suite.
Alors, bonjour Teresa Aymar, vous êtes présidente du CIDFF et membre du collectif du 25 novembre. Ce qu'on peut vous demander en premier lieu, c'est qu'est-ce que le collectif du 25 novembre ?
Alors, le collectif du 25 novembre, c'est cet organisme qui œuvre sur le territoire ici, sur le Lensois et ailleurs, hein, et qui ont réuni leurs forces pour travailler ensemble pour lutter contre les violences faites aux femmes. Alors, nous sommes cet organisme. Donc, moi, je représente le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Nous avons aussi, donc, le planning familial, Solidarité Femmes, donc SOLFA, Vestali, la Ligue de l'enseignement et Amnesty International.
Et est-ce que vous pouvez me dire pourquoi cette date du 25 novembre dans l'intitulé du collectif ?
Oui. Alors, le 25 novembre, c'est une journée de l'année où les projecteurs sont braqués sur cette problématique de violence faite aux femmes. Enfin, on peut dire aujourd'hui qu'on en parle beaucoup plus souvent de la question des violences faites aux femmes parce que c'est de l'actualité avec le mouvement, par exemple MeToo, les gens commencent à être sensibilisés réellement à cette problématique. Ce n'est pas pour autant que cette problématique est éliminée. Cette journée a comme objectif de faire un focus sur ce qui se passe en France, bien sûr, mais aussi dans le monde, hein, parce qu'il faut voir que c'est un problème qui dépasse largement les frontières d'un seul pays. Et on essaie de concentrer des événements de manière à ce que des gens puissent venir mieux comprendre de quoi il s'agit. Et ça va, nous espérons, les aider à être mieux armés pour lutter contre cette.
Donc vous organisez une soirée spectacle appelée Émancipons les féminins. Quel est l'objectif de cet événement ?
Alors, Émancipons les féminins, on se rend compte que le féminin est systématiquement dévalorisé. Quand on dit les féminins, on peut dire aussi, par extension, les femmes. Alors, je vous donne un exemple. Si un enfant, fille, se déguise en chevalier, on va dire que bon, elle se valorise et c'est quelque chose de plus. Enfin, c'est assez valorisant pour les parents, pour l'enfant. Par contre, si le petit garçon se déguise en princesse, je vous laisse apprécier quelles pourraient être des réactions de la plupart des parents face à cette situation. Ça décrit assez bien ce qu'on peut dire par le fait que le féminin est considéré toujours comme inférieur quelque part, et ça traduit très bien cette question d'inégalité entre les femmes et les hommes qui est la racine de la violence faite aux femmes.
C'est un bel exemple. Est-ce que vous pouvez me dire quel programme de cet événement ?
Alors, sur la ville de Lens, donc, nous avons un événement qui va se dérouler dans la salle Jean Nohain, et qui il y aura ce qu'on appelle le défilé de l'émancipation. C'est l'organisme Vestali qui travaille avec les femmes qui va organiser cela. Donc c'est un défilé de mode, mais différent, et qui a comme objectif de faire comprendre qu'une femme n'est pas uniquement un porte-vêtements, et que c'est que toutes les femmes ont des personnalités et des formes et des tailles tout à fait différentes, et que l'objectif c'est pas de voir la femme physique, mais de voir les femmes comme des personnes, des êtres humains à part entière. Il y a, après ce défilé de l'émancipation, il va y avoir ce qu'on appelle une manifestation théâtrale qui va focaliser aussi sur cette question d'émancipant les féminins. Je vais pas dévoiler le contenu, mais ça va être participatif et festif. Voilà. Et c'est le troupe de théâtre Détournoiement qui travaille beaucoup dans cette région sur les différentes problématiques d'égalité femmes-hommes, entre autres, qui va venir animer cette pièce.
Qui sont les partenaires qui ont participé à sa réalisation ?
Voilà. Alors, nous remercions surtout et d'abord la ville de Lens, qui est notre partenaire principal, qui nous prête la salle et qui fournit aussi un certain nombre de soutiens, notamment logistique, mais aussi de communication. Et leur participation est tout à fait appréciable. Ça veut dire qu'ils ont pris aussi la mesure de la difficulté de cette problématique égalité femmes-hommes et des problématiques de violence qui aucune ville malheureusement n'est épargnée en la matière. Donc c'est très bien que nous avons pu constater leur envie d'être aussi avec nous sur ce sujet.
Où et quand se déroulera cet événement ?
Alors, la date de cet événement, le 25 novembre étant un dimanche, c'était compliqué de mettre la manifestation le jour même. Donc, cet événement aura lieu le jeudi 29 novembre, donc à la salle Jean Nohain à Lens.
Eh bien, merci beaucoup, Teresa, d'avoir répondu à nos questions.
T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sein là. Oui, dans la nuit qui frissonne.
C'est la fin de cette émission qui était consacrée ce mois-ci aux Open Badge. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Leslie Martin, chargée de mission pour la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à toutes les personnes que nous avons interviewées, Mathieu Muselet, Émilie Lenel et Isabelle Grand, Eva Ferreira Pinto, Hélène et Nancy de la coopérative des savoirs et de l'association Cadabra, et enfin Teresa Aymar du collectif du 25 novembre.
C'était La Ligue et vous, présenté par Nicolas Lecomte et Pauline Comté-Soto, radio reporter en service civique pour la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais. À bientôt.
Si vous écoutez ce message, c'est que vos futurs clients